Phare FM Lyon Dauphiné 107.
L'invité.
La précarité et la santé des étudiants sont des sujets qui sont devenus des grandes questions de société depuis quelques mois. Et l'actualité, avec deux récentes tentatives de suicide dans la métropole de Lyon, ne font qu'exposer encore plus la détresse et la vulnérabilité des étudiants face à la crise sanitaire. Madeleine Chevauchet est avec nous cette semaine pour nous parler des étudiants et leur situation. Elle est étudiante en orthophonie et vice-présidente de l'association Gaélis. Bonjour.
Bonjour.
Est-ce que vous pouvez nous présenter votre association Gaélis ?
Alors, Gaélis, c'est le groupement des associations et élus étudiants de Lyon indépendants et solidaires. En fait, c'est une organisation représentative des étudiants et de la jeunesse sur le territoire lyonnais. Actuellement, on est la première organisation. Et du coup, on a pour mission de représenter les étudiants au quotidien, les étudiants au niveau des universités, donc des conseils des universités, et également grâce aux différentes associations étudiantes, les BDE, qui sont les administrateurs de Gaélis et qui adhèrent à cette fédération.
Quelles sont les actions que vous menez ?
Alors, Gaélis, c'est une association qui va avoir différents volets. On va avoir un premier volet d'accompagnement des associations, de formation des associations. On va avoir un second volet qui va être beaucoup plus tourné vraiment sur la représentation des étudiants donc au sein du conseil, comme je l'expliquais. À cette occasion-là, on va siéger en toutes les universités, travailler sur des dossiers de réforme académique, par exemple. Et après, on va avoir tout un dossier qui est beaucoup plus tourné vers l'étudiant en lui-même et vers l'aide à l'étudiant. Donc, lutte contre la précarité, lutte contre l'isolement social. Ça va passer par différents projets que nous, on a mis en place depuis déjà plusieurs années. Je pense notamment aux Agorae, qui sont des épiceries sociales et solidaires. Actuellement, il y a deux épiceries comme celle-ci sur la ville de Lyon. Il y en a une qui se trouve sur le campus de la Loire à Lyon 1, qui existe depuis déjà 10 ans. Et il y en a une deuxième qui a été ouverte sur Lyon 2 l'année dernière. Donc en fait, c'est des épiceries dans lesquelles les étudiants peuvent venir faire leurs courses à des prix qui tournent à peu près à 10% des prix du marché. Donc c'est des prix vraiment cassés. Et voilà, il faut faire la demande pour être bénéficiaire. C'est la demande qui est regardée par des assistantes sociales. C'est sur critères sociaux et ça permet vraiment d'aider les étudiants qui sont le plus en difficulté financière.
Avec le confinement et la crise sanitaire, quelles sont les actions qui peut-être vous n'aviez pas fait avant et que vous avez dû faire pendant ce confinement ?
En fait, la crise sanitaire a révélé et mis en lumière énormément de difficultés que les étudiants connaissaient déjà. Je pense notamment à la précarité, l'isolement social, mais surtout elle les a aggravées également. Et cette aggravation nous a obligés en fait à mettre en place différentes actions pour être au plus proche des étudiants et les aider le mieux possible dans ces difficultés-ci. On a mis des distributions alimentaires en place, des distributions paniers de première nécessité. Donc avec des aliments, il y avait des conserves, du lait, des fruits, des légumes et également des produits d'hygiène, donc plutôt du dentifrice. On a pu parfois aussi donner des produits hygiéniques, des serviettes notamment, du savon aussi qui est arrivé. Donc voilà, on a mis en place ces distributions-là, on les mettait en place sur les week-ends, donc elles avaient lieu une fois par semaine. Et en fait, on s'est rendu compte pendant le premier confinement qu'en une session, on a distribué plus de 10 000 paniers. Et là, sur le deuxième confinement, on avait toutes les semaines plus de 1 000 étudiants qui venaient récupérer un panier de première nécessité. Donc voilà, nous, c'est vraiment l'action phare qu'on a mis en place. Après, pendant le deuxième confinement, on a décidé d'accompagner également cette mise en place de distribution alimentaire par des centres de prévention et des centres d'écoute qu'on avait mis en place. Alors, nous, on n'est pas forcément formés à tout ça parce qu'on reste des étudiants, mais il y avait des distributions de flyers justement sur les différents dispositifs qui étaient mis en place au niveau de la santé des étudiants, mentale ou non, qu'on puisse rediriger en fait les étudiants de la meilleure des façons quand ils étaient pathologiques.
J'ai vu aussi que lors de vos distributions de paniers toutes les semaines, il y avait aussi des clés 4G. Pourquoi ?
Alors, les clés 4G, pourquoi ? Parce que actuellement, le confinement et surtout la fermeture des universités fait que la plupart des étudiants, en fait tous les étudiants, se retrouvent à suivre leur formation en distanciel et se retrouvent à devoir suivre leur cours sur un ordinateur via Internet. Et c'est des choses qui ne sont pas faciles et faisables pour tous. Il y a ce qu'on appelle la précarité numérique. Il y a beaucoup d'étudiants qui n'ont pas accès à un matériel informatique de bonne qualité et qui n'ont pas accès non plus à une connexion de réseau suffisante pour suivre en fait leurs cours en distanciel, pour suivre les vidéos qui sont mises en place. Donc ces clés 4G, pour nous, c'est un moyen de apporter notre aide aussi sur ce plan-là au niveau des étudiants, parce qu'on sait que c'est difficile pour beaucoup d'entre eux et que l'isolement social est déjà présent. Si en plus de ça, les étudiants ne sont pas sûrs de leur formation correctement, ça commence à faire beaucoup. Et donc c'est pour ça aussi qu'on a décidé de mettre en place ces distributions-là.
Qui sont les étudiants que vous accompagnez, que vous aidez ? Est-ce qu'il y a un profil type d'étudiant, si on peut dire ça comme ça ?
Actuellement, la crise sanitaire fait que tous les étudiants ont besoin d'aide, ensemble, et qu'on n'a pas... En fait, on a des profils qui sont très hétérogènes quand même, qui viennent de beaucoup d'endroits différents, de facs différentes, de filières différentes. Après, on note quand même, nous, dans les distributions alimentaires, un fort pourcentage d'étudiants étrangers. On était à peu près sur la moitié des bénéficiaires en fait, de ces distributions-là qui étaient des étudiants étrangers. Mais sinon, les profils restent assez hétérogènes. Ils n'ont pas forcément changé entre avant la crise et pendant la crise.
Est-ce qu'on sait un petit peu, parce que vous le dites, il y a beaucoup d'étudiants étrangers qui viennent aux distributions, est-ce qu'on sait pourquoi, en fait, ce sont peut-être plus les étrangers?
Parce que les étudiants étrangers sont du coup souvent seuls en France, leur famille n'est souvent pas en France, ce qui explique des difficultés financières parfois, et ce qui explique aussi un isolement grandissant. Et c'est vrai que ces distributions-là, en plus d'être une aide vraiment matérielle apportée aux étudiants, c'était aussi un moment pour eux, un moyen de sortir, de rencontrer du monde, de voir des gens, de discuter un petit peu. On ne peut pas forcément prendre énormément de temps, parce que quand on a plus de 1000 paniers à distribuer dans un week-end, très vite, ça devient compliqué de prendre du temps avec toute l'organisation qu'il y a derrière. Mais ça nous permettait quand même d'échanger un peu, de retrouver un peu un contact, et je pense que c'est ce qui pouvait expliquer cette part en fait grandissante des étudiants étrangers dans les bénéficiaires. Après voilà, on sait que les étudiants étrangers, en France, il y a une situation qui est compliquée pour eux, ne serait-ce que par exemple par l'augmentation des frais d'inscription qui a été appliquée sur les étudiants étrangers, qui du coup peuvent expliquer aussi derrière des difficultés financières plus importantes que pour les autres étudiants. Donc voilà, c'est vraiment un tout par rapport à tout ça dedans.
Il y a un peu plus d'un an, la précarité des étudiants était déjà un sujet qui avait fait surface dans l'actualité avec l'immolation devant le bâtiment du Crous de Lyon d'un étudiant de l'université Lyon 2. Est-ce que depuis novembre 2019 et maintenant en février 2021, il y a des choses qui ont changé? Est-ce qu'il y a des choses qui ont été faites pour faire bouger les choses?
Nous, du côté de Gaëlis, on a toujours essayé d'avoir un lien avec les institutions, un lien avec la métropole, avec la ville de Lyon, avec les universités, avec le Crous, avec la région même. C'est des acteurs qui reconnaissent de plus en plus Gaëlis et qui du coup prennent de plus en plus le temps aussi sur ces sujets-là. Bien sûr qu'on a alerté, les organisations étudiantes sont lanceuses d'alerte depuis longtemps sur ces sujets-là. Je pense que la crise sanitaire a du coup réellement fait prendre conscience de beaucoup de choses. On voit par exemple le ticket rue, le restaurant universitaire qui est passé à 1 euro par exemple pour les boursiers. Alors c'est toujours pas suffisant bien entendu, mais c'est déjà quand même une première avancée qu'on peut saluer. Notamment sur Lyon également, il y a au niveau des DCL et du Citral, une grosse baisse des prix des abonnements qui est prévue également pour les plus précaires. Donc voilà, on voit des avancées comme celle-ci, il y a des choses qui sont en train de changer. C'est des premiers pas. Après, voilà, on ne s'arrête pas d'alerter. On voit que c'est sans doute toujours pas suffisant. Mais je pense qu'il y a quand même une certaine prise de conscience qui est en train de se faire et qui nous motive d'autant plus à continuer à alerter sur tous ces sujets-là, justement.
Qu'est-ce qui est difficile en ce moment pour les étudiants?
Beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Ce qui est très difficile, c'est d'avoir cette impression, je pense, d'être un peu mis de côté. Le fait de ne pas pouvoir retourner sur les bancs d'attaque, contrairement par exemple aux collégiens, aux lycéens, même aux élèves de l'école primaire, etc. C'est quelque chose qui est très difficile à vivre pour les étudiants. La formation à distance, c'est quelque chose qui est compliqué. C'est très difficile de rester accroché à son ordinateur toute la journée de 8h à 17h et de réussir à suivre un cours, à l'intégrer, à rester motivé. Il y a beaucoup d'attachement, je pense, chez les étudiants, beaucoup de décrochage scolaire. C'est des situations qui renforcent en plus de cela l'isolement social qui est connu par les étudiants, d'autant plus en période de confinement. Ce qui s'est passé, c'est que là, il y a eu la possibilité dans les facultés de faire la demande de maintenir certains TD, certains TP en présentiel. Et en fait, ça a par ailleurs obligé des étudiants qui auraient pu rentrer dans leur famille pour ne pas être seuls pendant ce deuxième confinement, de rester pourtant sur leur lieu d'études et dans leur studio, dans leur 20 mètres carrés, parfois moins, durant tout confinement pour pouvoir suivre ces quelques cours qui avaient lieu en présentiel. Voilà, c'est vraiment beaucoup de choses. L'isolement social qui est compliqué. Alors maintenant, on n'est plus en confinement, donc les étudiants peuvent ressortir malgré le couvre-feu qui est quand même tôt actuellement et qui empêche parfois juste d'aller dîner chez un copain pour voir un peu de monde quand on sort des cours, parce que finalement, on est en cours toute la journée et 18h, on voudrait pouvoir peut-être aller voir une ou deux personnes et finalement, c'est pas possible. Donc voilà, c'est des problématiques qui sont connues, qui sont en train d'apparaître, et notamment, celle qui fait l'actualité en ce moment, c'est la santé mentale des étudiants. Donc c'est lié à toutes ces difficultés, hein. C'est lié à la formation à distance, lié à l'isolement social, en tout cas en partie, je pense qu'il n'y a pas que ça, mais c'est vrai que la crise sanitaire, cet isolement social, ces difficultés financières aussi, qui sont engrangées par la crise sanitaire, fragilise la santé mentale des étudiants et on note une vraie détresse des étudiants sur ce point-là.
Est-ce qu'il y a des situations qui sont différentes en fonction, par exemple, des diplômes, si on est en licence, en master ou même tout autre diplôme, même en fonction des matières? Est-ce qu'il y a des situations qui sont vraiment différentes par rapport... Enfin, les étudiants, on les met peut-être dans une globalité, mais au final, ils font des choses très différentes tous.
Alors, chaque étudiant, en effet, dans une situation finalement différente en fonction de sa filière, en fonction de l'université. Je pense que la vraie différence, on peut la noter sur les stages. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui vont pouvoir continuer leur stage, d'autres non, et je pense que c'est une réelle différence, quelque chose qui va vraiment jouer. Et du coup, il y a peut-être une différence qui peut être faite entre les étudiants en santé et peut-être les autres étudiants. Les étudiants en santé qui, durant cette crise sanitaire, continuent leur stage, mais continuent leur stage dans des conditions qui sont compliquées, avec le Covid, avec, voilà, il y en a beaucoup qui se retrouvent en unité Covid pour leur stage. Il y en a qui ont dû être mobilisés, par exemple, pour faire passer des tests PCR. Je pense qu'il y a une différence, à la limite, si on va en trouver une, sur ce type d'étudiants-là. Après, qu'on soit en licence, en master, je pense que la détresse psychologique est la même, parce que finalement, c'est pareil, c'est à peu près les mêmes conditions d'isolement social, de formation à distance et de précarité étudiante. C'est pas forcément parce qu'on est en master ou en troisième année de licence qu'on est moins précaire qu'une personne qui est en première année de licence. Alors après, c'est vrai que les premières années, c'est ceux qui sont un peu mis sur le devant de la scène. C'est ce qu'on voit avec Madame Zizel qui expliquait que les premières années pourraient peut-être se tourner en cours avec des groupes de 10 personnes, etc. C'est vrai que les premières années, eux, n'ont pas eu le temps de connaître la fac, qui ont déjà été renvoyés chez eux sur des distanciels. On sait que la différence entre le lycée et l'université, c'est quelque chose qui est énorme. C'est pas du tout les mêmes systèmes de fonctionnement et je dirais que c'est compliqué des fois de s'habituer à la fac, à l'université. Et c'est quelque chose que les étudiants n'ont pas eu le temps de faire, qui pourrait expliquer qu'ils soient peut-être plus susceptibles de décrocher scolairement, mais c'est vraiment pas les seuls.
Alors vous l'avez dit, la formation se fait majoritairement à distance en ce moment. De l'autre côté de l'écran, il y a les professeurs. Quels sont leurs retours, s'il y en a, sur la situation des étudiants en ce moment?
Je pense que ça dépend beaucoup, je ne me permettrai pas de parler pour tous les professeurs. Mais je peux parler pour les miens, que je vois tous les jours, et qui en tout cas les miens compatissent beaucoup de notre situation à nous le disent. Je sais que moi j'ai des professeurs qui essayent de finir le cours un petit peu en avance pour laisser un peu de temps avant de recommencer sur un autre cours en visio. Voilà, du côté des professeurs, je pense qu'il y a quand même, peut-être pas pour tous, je ne vais pas parler pour chacun, mais une sorte d'élan de solidarité quand même, parce que je pense que eux aussi, de leur côté, c'est pas forcément amusant de donner un cours et d'avoir 100 carrés noirs sur un écran en face d'eux, parce que les étudiants n'aiment pas forcément leur caméra, parce qu'ils n'ont du coup aucun retour en fait visuel, aucun ressenti sur ce qu'ils disent, sur ce que les étudiants comprennent le cours, etc. C'est des situations qui, je pense, sont très très compliquées pour les professeurs également.
Est-ce qu'il y a aussi des retours des universités de manière générale? Qu'est-ce qui est mis en place pour soutenir les étudiants?
Alors, les universités essayent de mettre de plus en plus de choses en place. Pendant le deuxième confinement, l'avantage, c'est que le premier confinement était déjà passé, on avait déjà connu cette situation-là, et en fait, les universités ont pu s'améliorer sur la manière de mettre en place les cours, d'accompagner les étudiants. Pendant le premier confinement, il y a énormément d'étudiants qui n'ont eu, en guise de cours, qui n'ont eu que des diaporamas commentés ou alors un PDF qui leur a été tout simplement envoyé comme ça en leur disant bah, « débrouillez-vous, lisez-le et si vous avez des questions, à la limite, envoyez-nous par mail ». C'est quelque chose qui a été fait pendant le premier confinement sur pas mal de filières. C'est quelque chose qui n'a pas été répété dans la plupart des cas pendant le deuxième confinement. On était rodés entre guillemets et il y a des cours vraiment en visio qui ont pu se mettre en place. Tous les problèmes de précarité numérique, par contre, qui sont impliqués du coup par ces cours en visio. Les universités ont également essayé de mettre des choses en place. À Lyon 1, il y a eu un plan d'aide pour que les étudiants puissent acheter du matériel informatique s'ils en manquaient. Nous, à IALIS, on a essayé également de lancer un peu un appel aux dons d'ordinateurs pour pouvoir les redistribuer à des étudiants qui étaient vraiment dans le besoin par rapport à tout ça. L'Université Lyon 2 nous a donné, nous, des ordinateurs à redistribuer aux étudiants avec les plus en difficulté. Il y a des choses qui sont mises en place. Il y a un accompagnement qui essaye d'être mis en place. Après, c'est compliqué parce qu'on sait qu'actuellement, il y a un manque de moyens qui se fait ressentir aussi et c'est plus forcément au niveau des universités que ça se joue. C'est ça qui rend les choses compliquées, mais les universités ont vraiment, je pense, pris conscience de la situation des étudiants et essayent de faire de leur mieux actuellement.
Vous dites que ça ne se joue pas seulement au niveau des universités, mais du coup, à quel niveau est-ce que ça se jouerait?
Ça se joue plutôt actuellement au niveau du gouvernement, on sait tous, je pense. La situation actuelle, elle a été très médiatisée et c'est vrai qu'en ce moment, ça prend beaucoup d'ampleur. Les étudiants essayent de se rassembler, de faire entendre leur voix pour expliquer qu'en effet, ils ont besoin de moyens. Les étudiants ont envie, beaucoup, peut-être pas tous, mais pour beaucoup, de retourner à la fac et de suivre des cours. puisque c'est une décision qui n'est pas liée directement aux universités, qui n'est pas les présidents d'universités qui décident de ça. C'est le Premier ministre, M. Castex, et Mme Guizet, la ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Donc voilà, c'est que là, ça se joue à ce niveau-là, en tout cas, sur la réouverture des universités. Et également, en ce moment, c'est demander plus de moyens aussi mis dans la santé mentale des étudiants. Et ça, pareil, ça ne se joue pas au niveau des universités.
Lors de la crise sanitaire, on est encore dedans, mais ça a été surtout le cas au début de l'année, les étudiants, même les jeunes de manière générale, ont été pointés du doigt comme responsables de la propagation du virus avec l'organisation de fêtes étudiantes, mais aussi avec des images qui ont circulé d'amphithéâtres bondés dans les universités. Est-ce que les gestes barrières étaient respectés et peuvent être réellement respectés à l'université ?
Au début de l'année, je pense que ça a été très compliqué, donc ça ne pouvait pas culper certaines universités de faire respecter les gestes barrières. La situation était différente dans chacune des universités parce que je pense que chaque université n'a pas forcément les mêmes moyens également. Par exemple, Lyon 1 a fourni des masques, une dizaine de masques à chacun de ses étudiants. 47 000 étudiants de Lyon ont pu recevoir 10 masques en début d'année, là en septembre. Ça a été fait également sur Lyon 2, il me semble. Les universités n'ont pas géré ça de la même manière. Et en effet, en début d'année, il y a eu des moments où les étudiants étaient assis par terre dans le vestiaire parce que ça manquait de place. Et qu'en effet, les gestes barrières n'étaient pas forcément respectés. Les universités, je pense, n'ont pas forcément la place nécessaire pour faire respecter une place sur deux. C'est pour ça que pour le moment, ce qui est demandé, c'est une réouverture partielle. Parce que les étudiants veulent retourner à la fac, mais ils ont conscience de la crise sanitaire, sont bien plus que certains ne le laissent penser. Les étudiants ont conscience de la crise sanitaire, de la difficulté de protéger les gens autour de nous, de se protéger eux-mêmes également. Donc actuellement, les étudiants, ce qu'ils demandent, c'est de pouvoir retourner partiellement sur les bancs de la fac. En effet, faire revenir à 100% au niveau de la crise sanitaire, sanitairement parlant, ce ne serait pas raisonnable. Mais je pense que les universités sont en capacité d'accueillir des étudiants, par exemple, à 50% ou de les accueillir sur leur temps de TD et de TP, tout en respectant les gestes sanitaires. Les étudiants ont conscience des difficultés de la crise sanitaire, les étudiants ont conscience du fait qu'il faut vraiment protéger nos aînés. Et je pense que les étudiants sont capables d'être aussi raisonnables que des lycéens ou des collégiens qui, eux, se retrouvent à l'école tous les jours.
Est-ce que l'annonce qui a été faite par la ministre Frédérique Vidal, la ministre de l'Enseignement supérieur, de rouvrir les facs, notamment pour les premières années, avec du coup des jauges assez modérées, est-ce que ces mesures sont suffisantes par rapport à ce que les étudiants demandent ?
C'est un premier pas qu'on peut saluer, mais qui est insuffisant. Qui est clairement insuffisant, parce que c'est comme je le disais tout à l'heure, les premières années ne sont pas les seules à être victimes de décrochage scolaire, à être victimes d'isolement social, à être victimes de précarité, que ce soit mentale, numérique ou financière. Et du coup, voilà, c'est un premier pas qu'on peut saluer, mais qui est vraiment insuffisant. D'autant plus que, on peut se demander, c'est-à-dire que cette circulaire, ces annonces, proposent également d'accueillir les étudiants en situation de handicap ou les étudiants qui sont en réel décrochage scolaire et qui le ressentent. Or, étudiants en première année, moi, ma question, c'est comment est-ce qu'on repère ces étudiants qui se sentent en décrochage scolaire et comment est-ce qu'on sait qu'eux sont en décrochage scolaire, peut-être plus que d'autres, ils ont plus besoin de retourner à la fac que d'autres. Voilà, c'est des choses qui sont encore très compliquées, qui posent beaucoup de questions et pour ces raisons-là, ce sont des mesures insuffisantes.
Du coup, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Parce qu'on sait qu'il y a des distributions alimentaires pour la précarité étudiante. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place, notamment dans la région lyonnaise. On le sait aussi, il y a pas mal de lignes d'écoute qui ont été mises en place, et vous l'avez dit, pour soutenir les étudiants face à l'isolement et tout simplement pour la santé mentale des étudiants. Qu'est-ce qui reste à faire ?
Alors, les différents dispositifs là qui ont été donnés, des dispositifs qui ne sont pas forcément mis en place par les universités, ni forcément mis en place par le gouvernement. Il y a des dispositifs qui sont mis en place beaucoup par des associations. À nous, les dispositifs de distribution alimentaire à l'IAMI, on l'a fait parce qu'on est une association étudiante et on est là pour aider les étudiants au quotidien. Néanmoins, on a d'autres actions à mener à côté et les distributions alimentaires, on va finir par arriver à un point où en fait on ne pourra plus les continuer, sauf si du coup on décide de mettre de côté tous les autres versants de notre association, ce qui est quelque chose qui est compliqué à faire, parce que ça reste des versants. Vraiment, voilà, la représentation au niveau académique, au niveau des dossiers, des réformes, etc., c'est des choses qui sont importantes. On ne peut pas se permettre de laisser tout le reste pour ces distributions-là. Donc, ce qu'on peut mettre en place, c'est des choses en fait qui soient pérennes. Nous, on demande qu'on arrête de mettre en place des choses seulement pendant la crise. Le cas, en fait, les difficultés que la crise a mises en lumière, elles sont structurelles, elles ne sont pas conjoncturelles. C'est des difficultés qui existent depuis des années, sur lesquelles on alerte depuis des années, Et nous, c'est à ce niveau-là, je pense que c'est important de mettre en place des choses. Par exemple, la linéarisation des bourses, c'est des choses qu'on demande depuis déjà longtemps. On sait qu'actuellement, le système de bourse ne correspond pas et n'est pas adapté aux difficultés des étudiants. C'est un système par palier où le revenu des parents changeant de quelques euros seulement peut faire perdre par contre beaucoup au niveau de la bourse à un étudiant. Donc c'est des demandes de longue date qu'on a et qu'il est temps d'écouter peut-être et de mettre en place. Après voilà, au niveau de la crise, je sais, c'est une réouverture des universités à temps partiel mais pour tous les étudiants quand même.
Vous parliez que du coup il y a besoin de plus d'aide, notamment de soutien par rapport aux distributions alimentaires. Ça a été voté par la métropole de Lyon, des subventions aussi par la ville de Lyon. Est-ce que vous pensez qu'il y a des choses à faire à ce niveau-là?
Nous, lors du deuxième confinement, les distributions alimentaires ont été soutenues par la mairie de Villeurbanne et par la métropole de Lyon. On a bénéficié d'une subvention de la mairie de Villeurbanne de plus de 2000 euros, il me semble. Et la métropole de Lyon, on a bénéficié d'une subvention exceptionnelle de 10 000 euros. Donc, c'est déjà des premières avancées. C'est vrai que c'est des aides qui nous ont vraiment aidé à avancer dans ces projets-là de distribution. Mais c'est ce que je disais, c'est que c'est le temps de mettre en place des choses qui sont un peu plus structurelles que conjoncturelles et d'aider vraiment les étudiants sur le long terme.
Est-ce qu'il y a des choses individuellement, hein? Est-ce que chacun peut faire quelque chose pour aider les étudiants?
Actuellement, il y a un grand élan de solidarité qu'on remarque et dont les particuliers en fait font preuve. Nous, on reçoit beaucoup de mails des parents d'étudiants, typiquement, dont on a fait une tout à l'heure, quand ce soir au téléphone, qui nous proposent de l'aide. Alors, beaucoup, c'est on voudrait bien accueillir un étudiant à dîner un soir, comment est-ce qu'on peut faire, comment est-ce qu'on les contacte, qu'est-ce qu'on peut passer par vous. Il y en a d'autres qui nous disent, on aimerait aider les étudiants, la cause étudiante, on ne sait pas comment faire, mais dites-nous quoi faire. Il y a un réel élan de solidarité, il y a de plus en plus de particuliers qui vraiment aimeraient accueillir des étudiants et les aider, même entre étudiants. De plus en plus, il y a cet élan de solidarité qui est né des événements de la semaine dernière. Beaucoup d'étudiants qui postent des messages sur Facebook en disant j'ai préparé un gâteau, est-ce qu'il y en a un qui veut venir le partager avec moi, contactez-moi en message privé, je vous donne mon adresse, et puis on en entend, on discute, on se rencontre. Donc il y a vraiment un élan de solidarité actuellement qui est assez impressionnant et qui est très beau à voir d'ailleurs. Du coup, c'est vraiment quelque chose sur lequel je pense qu'il faut essayer de monter quelque chose par rapport à ça, essayer de réfléchir à certaines choses parce que les gens ont envie d'aider les étudiants et c'est vraiment une belle chose.
Peut-être pour terminer avec une question un peu plus personnelle, comment s'est déroulée votre année?
Alors moi, mon année, pour le moment, se déroule plutôt bien. Je suis dans un département, un département qui est assez à l'écoute de ses étudiants. Voilà, si on a des problématiques, c'est assez facile d'avoir un rendez-vous avec notre administration. Au niveau des cours, moi, plus personnellement, j'ai eu beaucoup de mal à m'accrocher aux cours en bio. Mon département d'orthophonie a fait des demandes dérogatoires pour que certains TD aient lieu en présentiel. J'en ai eu un typiquement ce matin et c'est vrai que c'est bien de retrouver un peu des TD en présentiel, de retrouver un peu ce contact avec mes professeurs. Donc voilà, moi j'ai eu une période qui était un peu plus compliquée sur décembre au niveau des cours, mais là maintenant c'est parti avec grand passé. Je suis vraiment sur une bonne voie, je pense.
Eh bien merci beaucoup Madeleine Chevauchet d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes vice-présidente de l'association étudiante Gaéliste qui représente les élus et associations étudiantes de la métropole de Lyon. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Phare FM Lyon Dauphiné
107.